Il est 21h à Bamako et à Dakar, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, l'Organisation internationale de la francophonie a organisé son premier forum économique. Suite de nos reportages sur le sida, aujourd'hui nous sommes en Afrique du Sud où les jeunes femmes de moins de 25 ans ont un taux élevé d'infection au VIH.
Environ un quart de toutes les nouvelles infections sont chez les filles et femmes entre 15 et 24 ans.
Nous entendrons le reportage dans cette émission « Lutte contre Ebola au Mali ». Le gouvernement insiste sur une prise en charge précoce des malades. Enfin, au Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno a ordonné hier le retrait d'un code pastoral controversé. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Oui, Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Nouvelle attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. 3 civils ont été tués la nuit dernière à Eriginti, dans le nord Kivu. C'est ce qu'indique l'AFP. Un assaut attribué aux rebelles ougandais de l'ADF. Les autorités locales affirment que l'armée a repoussé les assaillants. Rappelons qu'en octobre dernier, 24 personnes ont été massacrées à l'arme blanche dans cette localité. Le président Uhuru Kenyatta a limogé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et le chef de la police après un nouveau massacre perpétré par des islamistes somaliens de Shebab. Au Zimbabwe, le parti du président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, est en congrès, un conclave capital pour l'avenir du pays. Le congrès a lieu quelques jours après une spectaculaire purge qui a vu l'éviction de plusieurs poids lourds dans le parti. Au premier jour du congrès aujourd'hui, des tracts ont circulé dans la ville de Harare, distribués par des activistes, appelant à un vote de défiance contre le président Mugabe. Hommage aux martyrs de la révolution au Burkina Faso, le président de la transition Michel Kafando et son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, et des dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage aux victimes tuées lors du soulèvement d'octobre dernier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, les députés français ont adopté une résolution invitant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. 339 parlementaires ont voté pour et 151 contre. Ce texte adopté par l'Assemblée française a une portée plutôt symbolique car il n'engage en rien le gouvernement français. Anan Ashraoui, une dirigeante palestinienne, a salué ce vote et appelle le gouvernement français à le traduire en acte. Pour l'ambassade d'Israël à Paris, le vote des députés français va éloigner les possibilités d'arriver à un accord de paix. Le leader de l'opposition à l'Assemblée nationale française, Christian Jacob de l'UMP, a déclaré que le vote ne fera que verser de l'huile sur le feu au Moyen-Orient. On écoute Christian Jacob.
Votre résolution, et vous le savez, elle est juridiquement nulle. Elle va mettre de l'huile sur le feu dans une région du monde qui n'en a pas besoin. Elle ne résoudra rien du tout. Elle risque au contraire d'opposer ici en France des Français entre eux.
L'ambiance ce matin au palais de l'Assemblée nationale en France. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé aujourd'hui à des élections législatives anticipées après avoir limogé deux ministres importants, des centristes opposés à une partie de sa politique. Il s'agit du ministre des Finances Yair Lapid, figure du centre droit, et de la ministre de la Justice Tzipi Livni, qui incarne le centre gauche. Des élections anticipées qui pourraient se tenir au début de 2015. La Knesset, le Parlement israélien, va commencer demain l'examen d'un projet de loi de dissolution, une procédure qui pourrait s'achever le jour même ou lundi, selon la radio publique israélienne. Et puis, ici aux États-Unis, les législateurs républicains continuent d'attaquer le président Barack Obama pour avoir décidé par décret la légalisation de près de 5 millions de sans-papiers. Lors d'une audience aujourd'hui à la Chambre basse, le député Michael McCaul du Texas a averti que cette mesure va encourager plus d'immigrants à essayer d'entrer illégalement sur le territoire américain, ce que rejette le secrétaire à la Sécurité intérieure Jay Johnson, qui a défendu la légalité du décret sur l'immigration, mais aussi son possible impact positif sur l'économie. Et puis toujours aux États-Unis, le secrétaire à la justice Eric Holder va dévoiler les directives visant à mettre fin au profilage racial en réponse au meurtre d'un adolescent noir non armé par un policier blanc à Ferguson dans le Missouri. Alors que les nouvelles directives s'appliqueront uniquement aux organismes fédéraux, elles contribueront, a-t-il ajouté, à codifier notre engagement envers les normes les plus élevées en matière de police. VO Afrique, vous écoutez maintenant la suite de nos programmes avec Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Le premier forum économique de la francophonie s'est ouvert hier au Sénégal, au lendemain du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ex-gouverneur général du Canada, Michael Jean, a été désigné pour succéder à Abdou Diouf à la tête de l'OIF. Pourquoi un tel forum ? Idriss Fall a joint son organisateur, Muntaga Sy, directeur général de l'APIX, agence de promotion des investissements au Sénégal.
Le premier forum économique francophone est bâti sur un constat de réalité sur les attributs de l'espace francophone qui pèse pour 720 millions de consommateurs et 7 200 milliards de produits intérieurs bruts. L'espace francophone pèse aussi pour 14% de la population mondiale et 20% des échanges commerciaux de marchandises. Donc cela veut dire simplement qu'il y a l'existence d'un potentiel énorme en matière d'économie qu'il fallait transformer. Et le 15e sommet de la francophonie a tenu ses promesses, tant du point de vue de la mobilisation et de la pertinence des thèmes, mais aussi tous les chefs d'État qui ont intervenu ont parlé de l'urgence et de la nécessité de poser les jalons de l'espace francophone économique. Nous rappelons simplement que ceci rentre en ligne droite avec la vision de son Excellence le Président Macky Sall, qui a déjà eu, je peux le dire parce que je l'ai vu, un pouvoir prémonitoire pour nous avoir instruit depuis 11 mois de préparer ce qu'on peut appeler le premier forum économique de la francophonie. Et ça a été confirmé hier. La secrétaire générale de la francophonie a posé l'espace économique et les enjeux économiques comme les défis majeurs de son mandat. Voilà ce que je peux dire, les raisons de l'organisation de ce premier forum économique francophone au Sénégal.
Et concrètement, qu'est-ce que ça va donner ?
Simplement, on va transformer ce potentiel énorme en espace sous-régionaux, donc d'espace économique. On peut prendre l'exemple de l'UMOA où il y a 8 pays. Ces pays qui font partie de l'espace francophone peuvent développer donc des espaces économiques en s'appuyant sur leurs vecteurs économiques majeurs. Nous allons aussi vers des propositions de réformes majeures qui permettraient donc la libre circulation des biens et des personnes, mais notamment en insistant sur les étudiants. Donc au niveau du savoir, on va aussi travailler sur des réformes pour poser les jalons économiques de l'économie numérique, mais poser aussi les jalons essentiels de la transformation complémentaire des opportunités entre les différents espaces de la francophonie.
Muntaga Sy, directeur général de l'APIX, agence de promotion des investissements au Sénégal, au micro d'Idriss Fall. La journée mondiale contre le sida a braqué hier les feux de l'actualité sur la pandémie qui touche particulièrement l'Afrique du Sud. Selon des experts, les jeunes femmes de moins de 25 ans ont un taux élevé d'infection au VIH dans ce pays et le virus du sida leur est transmis par des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Tousso Kumalo a rencontré certaines d'entre elles à Johannesburg. Son reportage est relaté par Michel Joseph.
Lolo Brigitta Tsupa, 30 ans, a appris qu'elle était séropositive à l'âge de 23 ans. Elle raconte comment elle a contracté le virus.
J'ai rencontré cet homme qui avait de l'argent. Il conduisait de belles voitures et il était très vieux, assez vieux pour être mon père. Il me faisait des cadeaux, me faisait sortir. C'était la vie que je voulais, celle que je n'avais pas. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai attrapé le sida.
L'histoire de cette Sud-Africaine est similaire à celle de Brenda Masango, 28 ans, ayant appris être séropositive en 2007 alors qu'elle était étudiante. Tout a commencé quand ses parents ont coupé leur soutien financier. J'ai dû acheter mes vêtements, faire attention à mes repas scolaires. Alors je suis sortie avec un homme plus âgé que moi. Il m'a dit, je te donne de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai donc fini par avoir des rapports sexuels avec cet homme sans utiliser de préservatif. C'est sûrement comme ça que j'ai contracté le VIH. Les experts disent qu'il y a 6,4 millions de séropositifs en Afrique du Sud et que les filles et femmes de 15 à 24 ans sont 4 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les jeunes hommes du même groupe d'âge. Dans le groupe des 20 à 24 ans, le taux d'infection chez les hommes est de 5,1% comparativement à 17,4% pour les femmes. Pour le docteur Farid Abdullah, directeur du Conseil national sur le sida en Afrique du Sud, les statistiques sont préoccupantes.
Environ un quart de toutes les nouvelles infections sont chez les filles et femmes entre 15 et 24 ans et nous pensons qu'elles sont infectées par des hommes plus âgés en échange de cadeaux pour les vêtements parce que ces hommes sont plus exposés au VIH.
Le médecin dit que l'Afrique du Sud a besoin de plusieurs actions pour éradiquer les relations sexuelles intergénérationnelles, y compris des programmes de réduction de la pauvreté et des campagnes d'éducation sexuelle destinées aux jeunes. Portia Serroté, coordinatrice nationale pour la campagne d'action thérapeutique, une organisation de plaidoyer basée à Johannesburg, dit que la politique gouvernementale qui permet aux filles aussi jeunes que 12 ans d'avoir des relations sexuelles, d'utiliser des contraceptifs et d'avoir des avortements sans consentement parental est la principale cause du niveau élevé d'infection chez les jeunes filles.
C'est tout comme les préparer à devenir séropositives. Et une fois qu'elles le sont, ça se gâte si elles sont enceintes. Et en plus, elles sont trop jeunes. On les pousse à avoir des relations sexuelles, mais il ne leur est donné aucun espace pour exercer leurs droits de manière responsable.
Une petite note d'optimisme quand même. L'Afrique du Sud a réduit le taux de transmission du VIH mère-enfant à environ 2% contre 8%. En 2008.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 101.7 FM, notre fréquence à Bangui. Rubrique santé, au Mali, un malade d'Ebola, traité initialement positif, a été guéri et contrôlé négatif vendredi dernier. Les autorités se réjouissent de cette évolution et félicitent tous les services et personnes qui ont contribué à l'identification, au suivi et à la prise en charge jusqu'à la guérison de cette personne. Le gouvernement du Mali et ses partenaires rappellent en conséquence que la maladie à virus Ebola peut être guérie mais avec une prise en charge précoce. Plus d'explications avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est dans une atmosphère détendue que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires ont animé cette conférence de presse. D'entrée de jeu, le ministre Ousmane Kone a fait le point de la journée.
Nombre de cas prélevés, 53. Nombre de cas confirmés, 7. Nombre de cas probables, 1. Alors, le nombre de décès, 6. Donc ce nombre 6 comprend effectivement les décès qui n'ont pas fait l'objet d'analyse en laboratoire.
Avant d'annoncer qu'une malade qui a eu contact avec une personne décédée a été traitée et guérie par le centre opérationnel d'urgence qui s'occupe des malades de virus Ebola.
Suite à ce traitement, l'arrêt des signes de la maladie a été constaté et un prélèvement de contrôle effectué le 25 novembre s'est avéré négatif. Les services de traitement ont constaté la guérison de la personne. Un certificat de décharge attestant cette guérison a été délivré conformément au protocole de l'Organisation mondiale de la santé.
Le représentant de l'OMS au Mali a salué le travail du groupe de suivi des contacts et la collaboration de la famille du malade qui a été guéri, Ibrahima Sossefal.
Collaborer depuis le début avec le service de santé en gardant au niveau même de cette famille leur propre registre de suivi en plus de ce que le service de santé faisait. Je pense que cette collaboration est essentielle. Donc nous avons gagné une bataille et le combat continue. Nous devons nous assurer que tous les contacts qui sont suivis aujourd'hui sont régulièrement suivis. On travaille encore avec nos frères de l'autre côté de la frontière pour nous assurer que toutes les actions nécessaires sont menées pour qu'on ne soit pas surpris avec un scénario similaire.
Occasion pour le gouvernement de rappeler que la maladie à virus Ebola peut être guérie avec une prise en charge précoce. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président tchadien Idriss Déby Itno a ordonné hier le retrait d'un code pastoral controversé qui, de l'avis de l'opposition et de la société civile, pourrait aggraver les conflits entre agriculteurs et éleveurs. La mesure adoptée il y a 3 semaines par l'Assemblée nationale, dominée par le mouvement patriotique du salut, oblige par exemple les agriculteurs à clôturer et à surveiller leurs champs. La coalition Trop c'est trop, un regroupement de la société civile, avait dénoncé ce code le mois dernier. Timothée Donangmaï a joint à Djamena son porte-parole, Baldaï Oyamta.
La loi elle-même fait la part belle aux éleveurs. Si je vous donne l'exemple de deux, trois éléments qui ressortent de ce code, vous avez les tiges de mil, les fans d'arachide, après la récolte, sont considérés comme ressources naturelles. Donc ça veut dire que l'éleveur peut l'utiliser comme il veut, alors que le propriétaire du champ même ne peut pas en disposer. Un autre élément que je peux vous donner, les maillages, par exemple, des puits pastoraux dans les zones arides, les puits doivent être implantés à 50 km de distance, tandis que dans les zones sédentaires, où il y a des cours d'eau et autres, c'est à 12 km. Au niveau de notre coalition, on a relevé ça comme étant un danger pour la cohésion sociale et le vivre ensemble entre éleveurs et cultivateurs.
Le président Idriss Déby Itno a annoncé son intention de retirer ce code. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a soulevé la question des remous que ce code a provoqué et la question de cohésion que ça peut créer entre les éleveurs et les cultivateurs, alors que les deux communautés sont appelées à vivre ensemble. Et par conséquent, il a décidé de le retirer. Et je crois que nous, on avait déjà dit ça, on avait dit que ce texte-là, c'est un texte assez macabre. Et donc, il ne fallait pas l'adopter au niveau de l'Assemblée nationale. Nous n'avions pas eu gain de cause. Et je crois que le président a eu la sagesse donc, de retirer ce texte-là, qui, en principe, si on le laissait comme ça, allait créer, c'était une véritable bombe entre les éleveurs et les cultivateurs. Et on sait déjà que même si le texte n'a pas encore été promulgué par le président de la République jusqu'à la date d'aujourd'hui, où il a décidé de son retrait, il y a déjà des éleveurs vichiers qui commencent déjà à en faire application ou à s'en approprier.
Comment comprendre l'adoption de ce texte par la majorité quand on sait que pratiquement toutes les régions du Tchad sont représentées au sein de cette majorité?
La majorité n'obéit qu'au mot d'ordre du parti. Et je crois qu'il y a une très grande influence du ministre de l'élevage sur cette question. Et cette majorité, comme le dirait quelqu'un, c'est une majorité mécanique. Et donc, elle n'a pas réfléchi, elle n'a même pas... Je ne sais pas s'ils ont lu le texte, s'ils ont vu tous les contours, mais cette majorité-là nous a fortement déçus en ce qui concerne donc ce texte. Ce n'est pas seulement la coalition Trop c'est trop qui s'est posée sur la question. Nous avons fait des analyses que nous avions envoyées à l'Assemblée nationale, à la commission droits de l'homme de l'Assemblée, au président de l'Assemblée. Il y a beaucoup de voix quand même qui se sont élevées. Les gens ont fait des analyses pour proposer la meilleure façon d'élaborer ce texte-là qui risque d'attiser le conflit et les verts cultivateurs.
Baldal Oyamta, porte-parole de la coalition Trop c'est trop, joint à N'Djamena. Celle plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Joselle Morissin. À la technique, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Moragibour. Nous nous quittons en musique avec Penza du Mali et son Nekantoma. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Ubeka bana bagato desele ula bla urgence la fura songo kula ikoro lujura tamu ikoro ni masa nikantema dogotoro sula o nene nene nikantema cheba miti mirini netola nikantema siaba daula maula.